Cette semaine, nous vous proposons à l'écoute tous les jours Mémoire de Buchenwald, une série en 6 épisodes de 20 minutes par Claire Latchag du collectif Transmission, réalisée avec Pauline Blanchet et ses élèves du lycée Utrio de Stain dans le 93. Mémoire de Buchenwald raconte comment ces adolescents sont partis sur les traces des descendants et descendantes de survivants des camps de Buchenwald et de Ravensbrück pour les interroger sur la transmission de cette histoire au sein de leur famille quand ils étaient eux-mêmes enfants ou adolescents. Comment transmettre la mémoire de la déportation après que les derniers survivants sont disparus ? Témoignages et making-of s'entrelacent et laissent entendre les élèves qui s'approprient l'outil radiophonique et deviennent à leur tour passeurs. Leur quête les mènera sur les traces de Michel Boitel, résistant oublié de l'histoire, qui a sauvé Stéphane Hessel en lui donnant son identité. Il est temps de lui rendre hommage. Épisode 4, du côté des Allemands.
C'est bon ? Können Sie sich bitte vorstellen ?
Ich heiße Gisela Prescott. Mein Vater war ehemaliger Buchenwald-Häftling.
Je tiens à ce que tous les élèves qui apprennent l'allemand aient l'occasion au moins une fois dans leur scolarité de découvrir un pays où on parle allemand. Sinon, je trouve que l'enseignement de l'allemand reste quelque chose de beaucoup trop hors sol. On leur dit d'apprendre l'allemand, ils le font, ils sont bien gentils, mais ils voient vraiment pas pourquoi.
À la première écoute, avec tous ces mots-clés-là, comment vous résumeriez ce que vous en avez compris ?
C'est une dame qui se présente et qui va évoquer l'histoire de son père parce que lui, il a été à Buchenwald.
Ce que j'ai compris, moi, c'est que son père, il a fait des grèves dans le domaine politique et il se fait arrêter.
Ok, il vient effectivement d'un milieu ouvrier et du coup, comme il était engagé dans le milieu politique, lesquels, à votre avis ?
Il était communiste.
Vous dites ça au micro ?
Il était communiste.
C'est bon pour la première partie ?
Aller ailleurs, parler allemand, c'est finalement le sens de mon métier pour moi. Mais le lier à un projet qui a du sens, c'est mieux.
Les filles, vous qui faites partie du projet, vous pouvez peut-être expliquer, Idriss.
En fait, la plupart du temps, c'est soit les grands-pères, soit les pères qui étaient dans les camps de concentration. Et c'est les petits-enfants ou les enfants qui nous disent comment l'histoire s'est transmise.
Laura, vous vouliez dire
non ? Non, j'ai dit bravo.
Si tu veux dire quelque chose.
Non, je t'ai dit bravo.
Et du coup, on a interrogé en Allemagne des descendants d'internés allemands au camp. Parce que c'est un camp qui était en priorité pensé pour les résistants communistes, donc au départ plutôt pour les Allemands, hein, les opposants à Hitler qui étaient allemands. Ok, c'est bon, deuxième écoute.
Mémoire de Buchenwald, un documentaire des terminales germanistes du lycée Maurice Utrio à Stain, accompagné de Pauline Blanchet et Claire Latzag.
J'ai envie de leur dire que oui, ça marche vraiment, il y a vraiment des gens qui parlent comme ça, que si on leur parle, ils répondent, et que, enfin, en fait, tout ce qu'ils ont appris, ça sert à quelque chose.
Épisode 4. Du côté des Allemands.
Bon, on va perdre la prof, là, faudrait avancer.
Il faut enlever tous les manteaux, tout ça. Hein.
Ah oui. Et bien voilà, rentrez.
Hallo.
Hallo. Ich heiße Sandia.
Bitte?
Sandia.
Sandia.
Yes. Hallo.
André.
Hallo.
Le 6 février 2023, nous avons rencontré Madame Gisela Plasgott à l'hôtel Louis Fischer Hof de Weimar.
Les quatre avec Gisela vont rester là, vont s'organiser.
Son père, Reinhold Plasgott, est né dans une famille d'ouvriers à Dresde en 1914. Il est arrêté en 1933 et est incarcéré au camp de redressement d'Ohrenstein. Il est libéré puis arrêté en juillet 1938 pour haute trahison et est envoyé à Buchenwald. Au camp, lui et ses amis réparaient des radios pour écouter illégalement les fréquences alliées.
Er hat einen Auftrag bekommen von der illegalen Häftlingsleitung.
Il a été chargé d'une mission par l'organisation clandestine des prisonniers. Pendant qu'il réparait les radios, il devait essayer d'écouter les nouvelles.
Sender zu hören. Das war aber verboten.
Ce qui était interdit.
Sie haben sich abends getroffen in der Werkstatt zu dritt, um eine bestimmte Sendung zu hören.
Ils étaient trois. Ils se donnaient rendez-vous à l'atelier le soir pour écouter une certaine fréquence radio. L'un d'eux restait dehors à monter la garde. Si les SS venaient, ils sifflaient pour avertir les autres. Ils devaient alors démonter le poste à toute vitesse.
Ils se sont fait prendre, mais avaient eu le temps de tout démonter.
Der SS-Mann hat das natürlich nicht geglaubt.
Le SS ne l'a pas cru. Il a fouillé tout l'atelier de fond en comble pour comprendre ce qui se tramait.
Haben aber nichts gefunden.
Mais il n'a rien trouvé, car les prisonniers s'y connaissaient plus que lui. En fait, il était même interdit de se retrouver là, ensemble, le soir. Alors ils ont cru que leur dernière heure avait sonné.
Also das ist unser Todesurteil.
Mais le SS, responsable, n'a pas fait de rapport.
Der SS-Mann weil hätte er das gemeldet, wäre rausgekommen.
Sinon, on aurait su que les prisonniers avaient un atelier de réparation de radio clandestin, et donc le SS aurait été puni.
Und da hätte der SS-Mann Strafe bekommen.
Ça a été leur chance, et c'est comme ça qu'ils ont survécu à cette situation délicate.
Gefährliche Situation überlebt.
Aujourd'hui, une photo d'une réplique du poste de radio clandestin se trouve au musée du camp.
Und in meiner Jugendweiheklasse im 8. Schuljahr hat mein Vater über sein Leben speziell in Buchenwald vor der Klasse gesprochen.
Et l'année de ma Jugendweihe, quand j'étais en 8e année, mon père est venu de ma classe pour parler de sa vie à Buchenwald. Il l'avait fait pour ma sœur, pour ses enfants, pour les miens. Malheureusement, il n'a pas pu le faire pour ses petits-enfants.
Da geht das nicht mehr. Vater ist 2008 verstorben.
Ce n'était plus possible. Papa est mort en 2008.
Vous, quand vous étiez petite, est-ce que vous en parliez à vos amis de tout ça?
Là aussi, j'ai envie de dire, faut mettre dans le contexte.
Franca Günther.
J'ai grandi à Weimar, et Weimar, à l'époque, faisait partie de la RDA, l'Allemagne de l'Est. Et en RDA, tous les élèves à 14 ans allaient visiter un ancien camp de concentration. Comme il y en avait plusieurs, le camp des femmes à Ravensbrück près de Berlin, le camp de Buchenwald en Thuringe. Donc on avait la visite guidée avec un survivant qui nous expliquait souvent non seulement le contexte historique, mais aussi son vécu personnel. Évidemment, ça, quand on est face à quelqu'un qui dit « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela », pour quelqu'un de 14 ans, voilà, on en parle, on en parle.
Ça c'est subjectif. S'il vous plaît. Bon, vous allez vous dire que je vous promène de cimetière en cimetière, vous auriez pas tout à fait tort. Hein, on a traversé, cela dit, vous voyez que c'est pas tout à fait le même type de cimetière. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme symbole directement?
L'étoile.
L'étoile, ouais. De quelle couleur?
Rouge.
L'étoile de qui? L'étoile communiste, exactement. Quoi d'autre? Comme symbole soviétique, qu'est-ce qu'on a? Bah, approchez-vous, regardez le petit portail par exemple. La fessille et le marteau. Ici, donc on a un cimetière soviétique, et si vous prenez votre plan, vous pouvez regarder, il y a la liste de tout ce qu'il y a à voir à Weimar. Il y a une chose qui n'apparaît pas, c'est le cimetière soviétique. Alors pourquoi? Ici, on se trouve dans quelle partie de l'Allemagne?
La partie de l'Ouest.
De l'Est. De l'Est, hein, on est en ex-RDA.
Ah,
donc pendant toute la période de la RDA, on a honoré la mémoire des soldats soviétiques tombés pendant la libération de Buchenwald et de la ville de Weimar. Comment s'appelle officiellement le pays dans lequel on se trouve? La République fédérale d'Allemagne, effectivement, nous sommes en RFA. Hein. La RDA n'existe plus, mais la RFA, elle existe encore. Elle a juste avalé la RDA, mais elle existe toujours. Donc, la mémoire du territoire où nous sommes a été également travaillée. Et donc, tout ce qui a un peu trop rapport au communisme, souvent, on le passe un peu sous silence. C'est le cas pour ce petit cimetière soviétique. Bon, si vous voulez, on fait un petit tour à travers le cimetière, puis ensuite, on traverse le parc.
Malgré leur expérience commune à Buchenwald, une fois la guerre terminée,
les anciens détenus allemands ont connu des parcours différents. En RDA, pays appartenant au bloc soviétique, le passé de prisonnier politique dans les camps a été glorifié par le régime. En revanche, en RFA, les communistes ont eu la vie dure, étant donné que le parti communiste, le KPD, a d'abord été sous haute surveillance avant d'être complètement interdit en 1956. Abdallah, Tony et moi, Louis, avons interviewé Reinhold Lohr au sujet de son père via vidéoconférence.
Ja, mein Vater ist 1910 geboren und er war zur Macht bei der Machtübertragung an Hitler war er 23 Jahre alt.
Reinhold Lohr est le fils de Erich Lohr. Il était membre du Parti communiste allemand et faisait des actions comme déchirer les affiches de la NSDAP et promouvoir le communisme.
Mein Vater das erste Mal 1933 verhaftet worden, nur für kurz.
Il a été arrêté plusieurs fois par la police allemande. Il a été transféré au camp de Buchenwald alors qu'il avait purgé sa peine.
Aber als wir dann die Überstellung nach Buchenwald gegeben haben.
Mais quand ils lui ont dit qu'il était transféré à Buchenwald, il n'a pas pu se retenir. Et il a mis son poing dans la figure du fonctionnaire qui était venu lui annoncer. Et cela, bien entendu, n'a pas joué en sa faveur. Et il a fait partie des rares prisonniers à arriver à Buchenwald menotté. C'est en septembre 39. Il est resté au camp jusqu'à sa libération le 11 avril 45.
Après la guerre, il est reparti vivre en Allemagne de l'Ouest où il a repris ses activités politiques.
In der Kommunistischen Partei Deutschlands gearbeitet.
Il n'a pas eu le même vécu que ceux qui sont restés en RDA.
Überhaupt nicht, sondern ich habe das ja vorhin schon einmal kurz gesagt.
Il a même été emprisonné pour ses activités politiques.
Er hat ja in den 50er Jahren noch zweimal im Gefängnis gesessen.
Reinhold Lohr ne comprenait pas les raisons de ces arrestations.
Also alle positiven Dinge, die sie erlebt haben, über die wurde gesprochen.
Son père ne lui parlait que des aspects positifs de son vécu dans les camps de concentration.
On se donne jusqu'à 30, vous essayez de vous répartir les voix, d'accord ? À 30, on voit ce que ça donne, on fait un premier essai.
Ah, madame, est-ce qu'il chante à plusieurs dans la vidéo
Dans la version de Tselan, il est seul, c'est lui qui fait les différentes voix.
C'est lui, madame.
Ok, vas-y, attends. Non, c'est-à-dire, on s'entraîne vite fait, on fait. On lit.
Vitrema, c'est où ? C'est froid ou fruit ?
On dit Milch.
Ouais.
Schwarze, Milch, der Früh. Wir trinken sie abends. Wir trinken sie Mittag und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends.
Wir trinken sie abends.
Wir trinken sie mittags und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete.
Dein goldenes Haar, Margarete.
Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz.
Todesfuge, Fugue de mort, par Paul Celan.
Votre père était germanophone.
Oui.
Est-ce que vous êtes de même ?
Pas du tout.
Anne Essel.
Et je vais vous dire, mon père était germanophone puisqu'il est né en Allemagne et a parlé allemand exclusivement jusqu'à 8 ans. Moi, je suis né en 46, et c'était à un moment où le fait même de s'appeler Essel faisait qu'à l'école communale, donc pas en 46, mais dès le début des années 50, j'étais plutôt traité de salboche. À l'époque, les gens parlaient de ce qui était arrivé à leurs grands-parents. Et mon grand-père paternel a fait la Première Guerre mondiale du côté des Allemands. Forcément, il était allemand. Et donc, moi, j'avais une mère russe, née en Russie, un père allemand né en Allemagne, des parents naturalisés. Moi, j'étais née à New York. Mon appartenance à la France faisait que l'essentiel devait être de parler français. Et mon père ne nous a absolument pas poussés à apprendre l'allemand, du tout. L'idée était, parlez français, soyez français, installez-vous en France et défendez ce beau pays.
Et pourquoi il est important pour vous de transmettre l'histoire de votre grand-père ?
Je ne transmets pas vraiment seulement la mémoire de mon grand-père.
Franca Günther.
Sinon, on ne ferait pas cette interview en français. En 1990, je suis allée en France et j'ai travaillé au nom du mémorial de Buchenwald sur la déportation des Français. Et c'était une autre histoire que j'ai découverte. J'ai eu envie d'abord d'en savoir plus et d'expliquer aux uns et aux autres ce que j'ai pu apprendre par l'autre côté. Tout le monde a été dans le camp et dans le même camp. Sauf qu'on ne peut pas non plus dire que c'était le même camp, parce que Buchenwald en 1938, quand mon grand-père est arrivé, n'avait rien à voir avec le camp de 1944, quand la plupart des Français sont arrivés à Buchenwald. C'était totalement différent, c'était un autre camp. Buchenwald était un endroit très international. J'ai entendu parler des déportés, que Buchenwald était pour eux la première fois qu'une Europe était née, un esprit européen était né. Bon, dans les conditions du camp, évidemment, bien sûr. Mais quand je parle de Buchenwald avec des gens, je ne dis jamais comment grand-père était à Buchenwald. C'est un détail familial. C'est pas l'essentiel, c'est pas le plus important. L'important, c'est ce qui s'est passé là, avec cette internationalisation. C'est comment ils ont pu s'organiser pour survivre.
Alors, dans le camp, il y a une plaque commémorative avec inscrit dessus les nationalités des personnes détenues au camp. Et au milieu de la plaque, quand on pose notre main,
c'est chaud,
c'est à la température du corps. Elle est maintenue à 37 degrés parce que tous les corps, peu importe l'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, les idées politiques, on a tous la même température corporelle. Et c'est pour ça que la plaque, elle est maintenue à 37 degrés avec les nationalités des gens détenus, du coup.
Et est-ce que vous vous souvenez quelle nationalité il y avait ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont étonné ?
Vietnamien, algérien, marocain, tunisien, sénégalais.
Cette dalle mémorielle,
Anne Essel,
est l'endroit où se font tous les rassemblements en mémoire des déportés de Buchenwald. Et les élèves ont découvert le nom des 54 pays d'où venaient les déportés du camp. Ils ont donc découvert là leurs propres origines, alors qu'ils ne se sentaient jusqu'à présent pas complètement concerné par cette histoire de nazis et d'Européens. Et nous nous sommes assez cérémonieusement engagés à défendre cette universalité qui, je pense, les touche particulièrement.
Und ich kann mich erinnern, als kleiner Junge war für mich ein ganz wichtiges Wort Friedensfreunde.
Reinhold Loch.
Je me souviens que, quand j'étais enfant, il y avait un mot qui était très important pour moi. Friedensfreunde, les amis de la paix. C'était les anciens prisonniers de Buchenwald, les camarades du Parti communiste, des syndicats, etc. Ce mot m'accompagne depuis que je suis enfant.
Freunde, der begleitet mich seit ich ein kleiner Junge bin.
Si vous constatez des injustices, ne détournez pas le regard. Faites preuve de courage. Faites preuve de solidarité.
Tu vois quelque part la caméra ?
C'est quoi Périphérique Système ? Oula. Ah, ça, c'est Franca, je pense.
Franca ?
Bonjour.
Ah, vous ne m'entendez pas ?
Oui, oui.
Merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps ce matin.
Volontiers, avec plaisir. Enfin, avec plaisir, non, parce qu'on parle des choses déplaisantes. La situation politique en Turin, donc c'est déplaisant, forcément.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les derniers événements politiques ?
Voilà, donc en septembre 2024, le 2 septembre, ont eu lieu les élections pour élire les députés du Parlement de Thuringe. Ces élections ont fait beaucoup parler parce que c'était pour la première fois depuis 1933, hein, en fait, qu'un parti de l'extrême droite, en l'occurrence le parti Alternative für Deutschland, AfD, obtient la majorité des votes et dévance tous les autres partis démocratiques au Parlement de Thuringe. Donc c'était vraiment un tremblement de terre qui s'est passé en Thuringe le 2 septembre dernier. Quand on a eu les résultats en septembre, on aurait pu craindre que les fonds publics ne seraient plus attribués aux mémoriaux. Or, ce qui est quand même positif, c'est que dans cette région de Thuringe, les démocrates se sont mobilisés pour faire face à l'extrême droite. Si bien que nous avons, depuis le 12 décembre, un ministre-président qui est chrétien-démocrate, qui a été élu au premier tour avec la majorité absolue des voix.
Ben merci beaucoup, c'est très clair.
Ok.
Merci beaucoup Franca, et on revient vers vous dès qu'on a fini.
Ok, très bien. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Sinon, on refait.
D'accord, merci.
La suite de notre documentaire « Mémoire de Buchenwald » au prochain épisode.
C'était « Mémoire de Buchenwald ».
Un documentaire sonore réalisé par Pauline Blanchet
et Claire Latzag. Mixage, Étienne Gracianette.
La suite demain dans le prochain épisode « Ce qu'il nous reste ».